Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Voilà, le club de la presse numérique, nous parlons ce soir de l'éthique des entreprises technologiques pour terminer ce soft power du 23 décembre. Et nous sommes pour en débattre avec Amel Guiton de Libération.
Bonsoir.
Et Elliot Lepers de l'association lemouvement.ong.
Bonsoir.
Alors avec vous deux, on va parler de l'éthique des entreprises du secteur des technologies. Quels sont les critères à vérifier? Pourquoi les entreprises ont intérêt à investir dans l'éthique? Et je partirai d'un classement international des entreprises les plus éthiques qui a été élaboré par l'organisation Ethisphere, qui se base sur plusieurs critères. Le principe étant que l'éthique favorise ou favoriserait au conditionnel le business. Ils ont été jusqu'à définir un bonus éthique, c'est-à-dire la part de croissance dans la capitalisation boursière d'une entreprise qui peut être attribuée à l'éthique. Aux États-Unis, on serait à près de 5% sur 3 ans et presque 11% sur 5 ans. Alors, première question, pourquoi les entreprises et Edouard Lepers auraient ou ont intérêt à avoir un comportement éthique?
Les entreprises sont des acteurs sociaux, donc elles ont un rôle à jouer dans la société, dans la vie de la cité. Elles interagissent avec des citoyennes et des citoyens au quotidien. Elles ont des rôles qui sont éminemment politiques, à minima parce qu'ils sont économiques, mais aussi parce qu'elles sont présentes, et notamment dans le numérique, dans nos vies quotidiennes, parce qu'elles régissent des données, parce qu'elles parfois ont des influences sur des décisions qui derrière ont des conséquences sur nos vies. Donc effectivement, elles ont un intérêt d'abord parce que elles ont un intérêt pour nous. Nous, on a un intérêt à ce que les entreprises aient un comportement éthique et répondent à des éthiques. Et ensuite, moi, je pense fondamentalement que leur futur dépend de leur éthique aujourd'hui, parce qu'on voit bien que, à la fois commercialement parlant, l'éthique devient un critère de choix. Donc c'est déjà un premier sujet. Les entreprises comme Cambridge Analytica, par exemple, avec le fameux scandale Cambridge Analytica, qui ont montré à la face du monde en quelques semaines qu'elles n'avaient aucune éthique, eh bien, ont été obligées de mettre la clé sous la porte. C'est un exemple. Il y en a d'autres qui ne suivent pas cette règle, mais en tout cas, c'est un des futurs des entreprises qui sont pas éthiques.
Amel Guiton, ça serait donc bien pour nous, pour les consommateurs, ça serait bien pour les salariés, mais ça serait aussi tout simplement un bon business d'une certaine manière.
Oui, et c'est d'ailleurs tout ce qui est toujours un petit peu compliqué en fait avec ce type de démarche, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il peut y avoir pour les entreprises un incentive entre guillemets, c'est-à-dire
une incitation
à être plus éthique, à faire effectivement attention à leur modèle de gouvernance, à la manière dont ils traitent leurs salariés, à la manière dont ils traitent leurs utilisateurs, etc. Et en même temps, on voit bien aussi que avec ce type de classement, on ne sort pas finalement de la logique de profitabilité au sens où l'éthique devient une manière comme une autre d'améliorer son business. Et du coup, c'est toujours intéressant d'ailleurs de regarder les critères. Moi, ce qui me frappe par exemple dans ce classement, c'est que est pris en compte le fait que les entreprises, par exemple, reversent à des œuvres caritatives, montent des fondations, etc. Mais on sait par exemple que les grands patrons de la Silicon Valley font beaucoup de dons de ce type, que ce soit Larry Page ou Mark Zuckerberg, etc. Alors même qu'on voit bien à quel point le business model de leurs entreprises peut être socialement extrêmement toxique. Donc c'est vrai que c'est toujours aussi compliqué de trouver les bons critères pour savoir ce qui relève véritablement d'une démarche éthique de la part de ces acteurs-là.
Oui, on a l'impression que c'est une vision assez anglo-saxonne en fait de l'éthique, à la fois dans ce qu'est l'éthique, c'est-à-dire le fait d'avoir une fondation philanthropique, quand bien même on ferait des profits de manière totalement irraisonnée, ça fait partie de la conception anglo-saxonne qui reste compliquée pour des utilisateurs, même conception européenne, et effectivement l'éthique comme un asset, comme un atout financier. Effectivement, sur la question des entreprises de l'Internet, une mauvaise manière de le dire, mais ces grands GAFA dont on parle, et même aussi tous ces acteurs, Uber versus Taxify versus Marcel, etc. Est-ce qu'il manque pas aujourd'hui, moi c'est une question que je me pose, un acteur, un observateur, et pas ce type de classement, et qui serait capable aujourd'hui de, disons, d'énumérer les caractéristiques éthiques ou pas de ces entreprises, parce que on a l'impression qu'il y a peu de discours dessus. En tout cas, ces nouveaux acteurs du numérique, eux, ont des difficultés à parler de ça, de leur rapport éthique.
Bah, en fait, la réaction, on a l'impression qu'elle vient souvent de l'intérieur. Enfin, ces temps-ci, d'ailleurs, c'est ce qui est assez frappant. Je crois que c'est au moment du Black Friday, il y a des salariés d'Amazon qui ont fait grève pour dénoncer un certain nombre de pratiques à l'intérieur de l'entreprise. On voit bien que chez Google aussi, le fait qu'ils aient commencé à développer un moteur de recherche qui serait conforme aux règles de censure chinoise, par exemple, ça a provoqué une énorme réaction des équipes salariées, dont certains, y compris, ont pris la parole publiquement. Il y a eu une tribune de salariés de Google disant on ne veut pas de ça, ce qui est d'ailleurs assez inédit, parce qu'il y a aussi une culture du secret, une culture de l'opacité, une culture du silence dans ces entreprises-là, qui est en train petit à petit d'être brisée. Donc en fait, il y a une réaction qui vient de l'intérieur. Les associations de consommateurs commencent à faire ce boulot-là aussi.
Pendant longtemps, elles les ont laissées de côté pendant longtemps, ces grandes entreprises-là.
Bah, ça commence petit à petit. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, sur la question des smartphones, on entend aussi de plus en plus de choses sur la manière dont ils sont produits, de manière évidemment délocalisée, là où le coût du travail, entre guillemets, est moins faible. Le fait que ça utilise des matériaux qui sont extraits dans des zones de conflit, etc. C'est des choses quand même dont on sent qu'elles commencent à monter parce qu'effectivement, ces objets font partie de notre quotidien. Et on voit, y compris dans les médias américains, de plus en plus de chroniqueurs qui disent on peut aussi être un consommateur éthique en se posant la question du business model sur lequel reposent ces produits et ces applications qu'on utilise tous les jours. Donc moi, j'ai le sentiment en tout cas qu'on assiste à une prise de conscience.
Et comment on les recycle ou on les recycle pas? Critique aussi très forte à l'égard de Starbucks, par exemple, critiquée pour sa gestion des salariés. C'était le cas notamment dans un documentaire récent de Arte, mais aussi pour la faible part de l'argent qu'il gagne et qui est réellement reversé aux producteurs de café. Sur ça, Elliot Leper, sur ce sujet, dans les critères établis par Ethisphere, on remarque l'absence de la préservation de l'environnement. Que peut-on attendre des entreprises sur les questions environnementales?
Effectivement, en fait, je pense que c'est un peu le problème de ces classements, c'est que souvent on évalue les plans d'action et on n'évalue pas forcément l'intention finalement ou le modèle économique et la compatibilité du modèle économique avec le respect de ces critères. Pour moi, il y a l'enjeu fiscal, l'enjeu social, la préservation de droit du travail, quoi, l'enjeu de la propriété des données et de la vie privée et l'enjeu environnemental. Effectivement, sur le numérique en particulier, c'est une énorme hypocrisie parce que c'est très compliqué d'envisager des géants du web qui soient compatible avec le respect de l'environnement, parce que par principe ils consomment tellement d'énergie, c'est leur modèle, et nous on consomme tellement d'énergie pour consommer leurs services que de toute manière il y a un sujet de base, c'est qu'effectivement Internet n'est pas fait pour être bon pour le climat. Donc après on peut améliorer la performance des serveurs, on peut développer des technologies qui permettent d'alléger les contenus, on peut alléger le stockage et effectivement tout le stockage qui s'amplifie de jour en jour, qui est sur des serveurs et qui sont à disponibilité immédiate à quelques secondes, c'est un enjeu majeur.
Y compris pour la blockchain, par exemple, la gestion des données a un impact écologique particulièrement critique.
Et c'est ça qui est plutôt inquiétant, c'est effectivement qu'on va vers des technologies qui sont plutôt de plus en plus consommatrices.
Gourmandes.
Ouais. Exactement. Que vers ce qu'on pourrait espérer, c'est-à-dire ce qui se passe un peu sur la voiture. C'est-à-dire qu'on est un peu sur l'inverse. C'est que sur les véhicules, on va vers des véhicules qui consomment de moins en moins, et l'évolution depuis 50 ans, c'est ça.
En même temps, il y en a de plus en plus, notamment en Chine, en Inde.
Ça, c'est vrai. Sur le numérique, on a effectivement des technologies qui consomment de plus en plus.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un classement, finalement, des grandes entreprises les moins éthiques?
Je pense qu'il faudrait les deux. Il faudrait les entreprises les moins éthiques, et puis aussi
Le bonus
les plus
et
éthiques.
Le malus.
Oui, non, mais ne serait-ce que pour inciter après les utilisateurs à faire leur choix, en conscience, parce qu'il y a probablement plein de gens qui ne savent pas forcément qu'il peut y avoir des alternatives plus vertueuses à des choses qu'ils utilisent tous les jours.
Mais c'est ça, en fait, on a l'impression qu'il y a aussi un manque de... Parce qu'en réalité, tous ces acteurs sont très jeunes, il y a un manque de connaissances. En l'occurrence, je fais part de mon expérience personnelle, c'est un débat que j'ai souvent, sur la question de la livraison de repas, par exemple, des livres où, effectivement...
Amazon les commerçants indépendants.
Celui-là, on le connaît bien, parce qu'en réalité, quand c'est un acteur numérique versus un acteur réel, les gens sont assez conscients. Quand c'est plusieurs services numériques, les uns avec les autres, on va prendre celui qui marche le mieux, celui qui est le plus mainstream, celui qui a l'air le plus simple, dont on se dit peut-être inconsciemment finalement si ça marche c'est que c'est pas si catastrophique, et de toute façon si je veux me faire livrer je vais quand même avoir tendance à prendre le truc qui me livrera le mieux et au moins cher. Et là c'est comme si d'un coup toute la conscience éthique et sociale qu'on peut avoir, on peut taper sur Goodyear, mais on ne se pose pas la question sur des livres. Il y a quand même, j'ai l'impression aussi, une conscience politique du consommateur qui ne s'est pas construite assez vite au regard de la place que ces acteurs ont pris dans notre vie.
Elliot Leper.
Je pense aussi qu'effectivement, beaucoup de ces services jouent un rôle d'intermédiaire. Et quand c'est un intermédiaire, c'est extrêmement dématérialisé. Et la seule relation qu'on a, c'est effectivement à l'interface homme-machine, c'est-à-dire à quoi ressemble l'application mobile, quel est le ton utilisé pour nous parler. Et donc, ça crée une forme de distorsion de l'image qu'on peut avoir de ces services-là. Et donc, il nous empêche parfois d'interroger l'impact et la raison d'être même de ce modèle-là. Je pense qu'il faut revenir à cette source-là.
Amaël Guiton.
On voit qu'en fait la prise de conscience, elle s'opère à mesure des scandales. Enfin, c'est assez frappant. C'est-à-dire qu'après Cambridge Analytica, on a vu apparaître le fameux hashtag Delete Facebook, où tout à coup, effectivement, de plus en plus de gens réalisaient que ce que disent les défenseurs des droits sur Internet depuis des années, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ben en fait, c'est vrai. Mais on le voit aussi, je crois, apparemment dans la Silicon Valley, il y a eu des cas de harcèlement sexuel, je crois, chez Uber, auxquels un certain nombre de gens ont trouvé que l'entreprise ne répondait pas de manière assez nette. Et du coup, il y a eu un switch, entre guillemets. Enfin, il y a des gens qui ont basculé sur Lyft, par exemple, qui est un autre service équivalent. Et donc, effectivement, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il y a un scandale qui éclate, donc tout à coup, on va s'interroger sur l'acteur qui en est à l'origine, et on va éventuellement chercher à passer à un autre.
Et on commence à avoir de la publicité de certains concurrents qui commencent à utiliser des arguments éthiques. Vous prenez le cas de Taxify, qui fait en ce moment de grandes campagnes de publicité dans le métro, qui dit « Nous payons nos impôts en Europe, nous offrons des primes à nos chauffeurs. » Et je ne sais plus quel est le troisième argument. Point. Taxify, c'est tout. Et c'est, je crois, dans mon esprit, l'un des premiers cas d'un acteur qui se lance en attaquant, sans le dire frontalement, un concurrent très établi qui est Uber, sur des enjeux uniquement éthiques, notamment en France, où on sait, probablement eux savent, que c'est des enjeux qui peuvent parler à des consommateurs relativement politisés.
Pour terminer, ça signifie finalement que les entreprises bien font attention à leur réputation.
Ah bah c'est oui, ça c'est clair que c'est devenu un élément hyper important, d'autant que effectivement on est aussi dans un moment où le name and shame entre guillemets est extrêmement efficace parce que ça va très vite.
Nommer et dénoncer,
et on voit bien à quel point d'ailleurs Facebook en fait les frais. Ils ont essuyé un certain nombre de scandales sur
cette
leurs
année,
données au cours de l'année, et vraiment ils sortent les rames pour essayer de reconstruire leur réputation. Donc il y a effectivement, je pense, une attention particulière parce que les choses se savent.
Et le perd.
Et puis les scandales sont aussi les moments où on prend connaissance de l'absence d'éthique, parce qu'effectivement on a très peu d'éléments, sur la consommation réelle des serveurs de Facebook et de Google. On se souvient par exemple de Tristan Harris qui a fait un travail colossal pour expliquer les mécanismes d'addiction qui étaient développés dans tous les services numériques qu'on utilisait, et on a besoin de personnes de l'intérieur pour nous expliquer ça, parce que sinon effectivement on n'a pas accès à cette information. Et donc il y a un rôle énorme à jouer des lanceurs d'alerte pour qu'on soit au courant de toutes les dérives, pour qu'on puisse ensuite effectivement les combattre. Le décalage aujourd'hui, il est ça, entre notre connaissance commune de ces dérives-là et la transparence dont on a besoin pour pouvoir les combattre.
Oui, et puis il faut aussi probablement faire un effort pour ne serait-ce que mettre en valeur aussi les alternatives vertueuses. On voit que certains acteurs émergent sur des modèles alternatifs. On a le cas de bien connu de Quant qui pour le coup...
Par rapport à Google, moteur de recherche
voilà, et puis
français.
Qui gagne de la réputation en disant « nous, on n'exploite pas vos données personnelles ». Mais
ça leur permet de passer de 0,01 à 0,02.
Et on consomme moins sur les ordinateurs.
Et le travail colossal de Framasoft, qui développe des alternatives à chaque service commercial, notamment de Google, avec ce village gaulois de la dégooglisation d'Internet, c'est-à-dire que vous avez des alternatives libres pour chacun des produits qui nous espionnent et chacun des produits qui extraient la valeur de notre utilisation. Ça, c'est un travail absolument nécessaire et qui est assez balbutiement, même s'il y a énormément de choses qui sont faites, mais il faut maintenant massifier cet usage et massifier aussi l'usabilité de ces produits-là.
Bien, mais merci infiniment, on en reste là pour ce soir. Merci à vous, Amaël Guiton de Libération, Idole de Perse, de l'ONG, lemouvement.ong. Vous pouvez retrouver cette chronique, ce débat sur le podcast de Soft Power, sur notre site France Culture, sur iTunes, sur Spotify et sur l'application podcast de votre smartphone.